L'année 2026 qui commence en force sur le plan de l'actualité, beaucoup à l'international avec Donald Trump qui a capturé le président du Venezuela, Nicolas Maduro, qui depuis est emprisonné du côté des États-Unis, fait face à bien des accusations. Et là, au départ, on disait « ouais, mais c'est à cause de la drogue, c'est parce qu'il dirigeait un cartel de drogue, puis à cause de lui... » Là, on a vite compris que c'était peut-être plus une histoire de le pétrole au Venezuela est bien, bien intéressant pour les États-Unis. Mais dans tous les cas, on est dans une situation assez particulière présentement. Puis là-dedans, tu as un Mark Carney, premier ministre canadien, qui a pas l'air de savoir trop où il faut se positionner parce que là, tu veux pas non plus fâcher Donald Trump, mais tu veux pas rester silencieux dans tout ça. Bref, on va en parler avec Sandra Aubé, experte en affaires internationales, VP affaires fédérales chez TACT. Salut Sandra, gros début d'année.
Gros début d'année, hein? Ça a commencé sur les chapeaux de roue, comme on avait fini l'année, mais c'est différent.
Je le disais, Mark Carney, là, il marche un peu sur des œufs présentement quand il parle de Donald Trump puis du Venezuela. Y a-tu vraiment une bonne posture à adopter ou il fait bien de juste essayer de pas trop brusquer personne?
C'est un dossier où tu peux pas plaire à tout le monde. Puis quand j'ai regardé, comme dès que c'est arrivé, là, dès qu'on a eu les nouvelles, je pense que c'était samedi, que le président Maduro avait été arrêté par les autorités américaines chez lui, sorti de son pays, j'ai été voir les déclarations qui étaient émises par la ministre des Affaires étrangères, puis éventuellement par le premier ministre Carney, et c'était mou. Et je m'attendais à ce que ce soit mou. C'est le genre d'élément sur lequel le langage, les mots, chaque virgule qui est utilisée est négociée entre les différents ministères qui sont impliqués parce que présentement, on le sait, hein, on le dit souvent, on est un peu comme l'éléphant dans la pièce, c'est Donald Trump, c'est comment il va réagir, c'est comment notre économie est assujettie au soubresaut d'humeur du président américain, mais aussi comment c'est notre voisin, puis comment notre sécurité est liée à la leur aussi. Mais si tu regardes presque partout à travers le monde, puis notamment des pays du G7, si tu regardes le langage qui est utilisé par la France, par le Royaume-Uni, quoi, tout le monde fait attention. Tout le monde fait attention pour ne pas aller froisser ce qui est normalement un allié. Il reste que, tu parlais du régime au Venezuela, le régime de Maduro, là, c'est pas des enfants de cœur. La population a vécu d'énormes difficultés. Mais de là à aller dans un pays étranger, de là à avoir des forces armées spéciales qui vont dans un pays étranger pour aller chercher le leader et le ramener, le faire comparaître chez vous, là, il y a un pas de géant qui a été franchi. Ça crée un précédent, puis c'est noté partout à travers le monde. Mais le silence, présentement, qu'on perçoit, de moins en moins. Les gens parlent de plus en plus, mais le silence au départ, pour moi, il était assourdissant.
Et là, bon, on commence de plus en plus du côté des États-Unis à pas cacher que le Groenland nous intéresse beaucoup aussi. Puis là, ça va même plus loin au point où hier, on n'excluait pas de prendre possession du Groenland par par les forces armées. Ça, là-dessus, est-ce que Mark Carney a peut-être plus de légitimité d'y aller plus clairement contre l'idée de Donald Trump?
Oui. Puis tu sais, dans le langage, si jamais les États-Unis ne peuvent pas faire ça, hein, c'est tout le temps, on appuie le Danemark pour le respect de sa souveraineté territoriale et blablabla. Oui, clairement, il saisit les leviers qu'il a pour venir utiliser du langage plus fort. Dès que j'ai vu, on savait que le premier ministre Carney s'en allait, il y avait un sommet organisé en soutien à l'Ukraine, c'était organisé à Paris. Puis quand on a vu l'itinéraire sortir, c'est toujours envoyé normalement avant que le premier ministre, avant sa journée ou avant qu'il fasse quelque chose. Puis là, on a vu qu'il rencontrait le président de l'OTAN. Puis on a vu qu'il rencontrait la première ministre du Danemark. Puis là, je me suis dit, OK, on est en train de faire du positionnement parce que je sais que ça semble loin quand on parle de ces choses-là. Mais le Danemark, pour nous, c'est un peu comme dans le Groenland, en fait, c'est dans notre cour arrière. Le Groenland, c'est dans le fond, c'est un territoire là, extérieur au Danemark. Puis il y a des ressources importantes. Les États-Unis disent que la Chine, la Russie sont partout là-bas, alors que les États-Unis ont une base militaire là-bas. Mais ce que ça veut dire, c'est ce qui s'est passé au Venezuela. On a utilisé un prétexte, puis ensuite, Donald Trump, il ne voile pas ses intentions. Tu as raison, comme il parle du pétrole, comme il veut les ressources, il veut que les entreprises américaines se refassent là-bas, alors que ça avait été nationalisé. Ensuite, on se tourne vers le Groenland, qui a plein de ressources naturelles. Puis après ça, on se demande, ben, c'est qui le prochain? Hein? C'est ça la question. C'est comme les États-Unis ont décidé que c'était eux le boss dans l'hémisphère ouest, donc dans le fond, comme toutes les Amériques, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, puis bien ça comprend le Groenland aussi, mais ils ont décidé qu'ils se faisaient un peu comme maîtres là, puis qu'ils allaient faire respecter leurs propres intérêts. Puis tout ça est lié à une stratégie qui a été rendue publique là, en novembre, c'est la stratégie de sécurité nationale. Ça avait fait jaser un peu, mais les gens disaient, OK, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel, là, ce qu'on voit. C'est que c'est appliqué de manière très rigoureuse. Puis essentiellement, ce que cette stratégie-là dit, c'est si c'est dans les intérêts des États-Unis, comme on va poursuivre la chose, peu importe où est-ce que c'est, et c'est ce qu'on voit présentement. Ils veulent des ressources, ils veulent de la richesse, c'est ce qui est poursuivi.
Et là-dessus, ça nous pousse à nous demander, même si ça paraît un peu surréel, mais rendu là, on n'a pas le choix de se poser la question, c'est à quel moment ce sera le Canada, là? T'sais, à quel moment ce sera notre eau, à quel moment ce sera de dire que dans le nord du Canada, ben ça devrait être les États-Unis qui ont droit à ces richesses-là. On n'a pas le choix de se poser ces questions-là à la lumière de, bon, le Venezuela, c'est une chose, mais là, quand on commence à parler du Danemark, puis en fait du Groenland, puis d'envoyer les forces armées, ça va s'arrêter où?
Ben, c'est une excellente question. J'ai pas la réponse. Je pense que c'est toujours sain de regarder le tout avec lucidité. Parce qu'on est vraiment dans un contexte où on pensait jamais avoir ces conversations-là, comme le Danemark, Groenland, ça fait partie, c'est des alliés, on fait partie de l'OTAN, la coalition. Là, si les États-Unis débarquaient là-bas d'une manière ou d'une autre, de manière comme pour aller chercher plus de territoire, ben ça vient contre ce qu'on appelle ça vient déclencher l'article 5 où une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Donc ça devient très sérieux. Qu'est-ce que ça vient dire à ce moment-là? C'est la fin de l'OTAN. Pour le Canada. T'sais, rappelons-nous qu'il y a un an, on parlait du 51e État. Hein? Trump avait
Oui.
ça beaucoup dans son narratif. C'était extrêmement irritant, frustrant pour plusieurs. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour plusieurs, parce que ça venait justement challenger notre souveraineté puis notre identité. On soit Québécois, Canadien, tout ça, de venir dire comment on serait le précieux 51e État des États-Unis. Mais ce que M. Trump fait depuis un an, c'est quand même c'est la coercition économique, hein, avec les tarifs, la pression, comme tous les défis que ça met sur les entreprises ici, puis les quatre chemins que le gouvernement à Ottawa essaie de prendre, puis aussi, tu sais, à Québec, pour aller créer plus de recherches, pour aller diversifier. Mais c'est pas demain qu'on va voir les bénéfices de ça. Ça prend beaucoup de temps. Puis je sais pas si M. Carney pourra voir ça pendant son règne comme premier ministre, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources. C'est vrai, si je regarde, tu sais, le Québec, je pense à l'hydroélectricité aussi, je pense à des minéraux critiques, stratégiques. Si je regarde l'Ontario, évidemment, je pense à tout ce qu'on appelle j'ai envie de dire, c'est-tu il y a la ceinture de feu, où il y a beaucoup de minéraux critiques dans le nord de l'Ontario. Les États-Unis ne se sont jamais cachés de l'intérêt pour les minéraux critiques canadiens. Je pense que s'ils pouvaient toutes les prendre, ils les prendraient toutes. Puis évidemment, bon, il y a le pétrole en Alberta. T'sais, on a beaucoup de potasse en Saskatchewan. Il y a beaucoup de choses comme, t'sais, on a un pays, on a des provinces qui sont immensément riches. Donc, est-ce qu'ils voudront se tourner puis à un moment donné, comme mettre plus de pression pour dire, hey, comme on veut plus d'accès à vos ressources? Ben là, il faudra voir comment est-ce qu'on gérera la chose. Mais je pense que c'est simple, c'est correct de voir que comme ça pourrait en effet répondre à un de leurs objectifs dans leur fameuse stratégie de sécurité.
Tu as mentionné, Sandra, le pétrole en Alberta. Est-ce que ce qui se passe présentement avec le Venezuela qui a des richesses immenses en pétrole, puis là, puis je ne suis pas un professionnel en la matière, mais ce qui se dit, c'est que le pétrole canadien devient peut-être moins important pas mal là, pour les États-Unis à partir du moment où tu as cette richesse-là rendue dans ta cour parce que tu as pris possession de cette cour-là ou presque. Là. Donc là, le pétrole canadien va se passer quoi avec ça? Est-ce que pour le gouvernement Carney, ben c'est un frein à investir ou si au contraire, c'est on y va?
Tu as deux écoles de pensée. C'est sûr que si le gouvernement est vraiment attaché à faire sortir ces ressources-là, ce qui semble être le cas présentement, hein, Carney qui veut faire du Canada une puissance énergétique, puis la première ministre de l'Alberta qui pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir faire sortir ces ressources-là, ben là, à ce moment-là, c'est sûr que ça vient un peu donner un argument supplémentaire pour justement, on a besoin d'un autre pipeline, d'un autre oléoduc, puis que ça aille vers l'ouest possiblement, pour qu'on puisse faire sortir davantage vers les marchés asiatiques, qui sont une porte intéressante, mais la majorité des ressources qui sortent présentement s'en vont vers les États-Unis où elles sont raffinées. Alors, c'est pas demain matin que ça va changer, mais c'est sûr que quand on arrive au moyen terme, parce que, tu sais, tout ce qu'on sait au niveau du Venezuela, c'est qu'il y a beaucoup de désuétude. Il y a des gros défis au niveau des raffineries qui sont là, puis des installations qui sont là, parce que ça n'a pas été entretenu nécessairement au niveau où ça aurait dû l'être, suivant la nationalisation. C'est une économie qui est vraiment en difficulté au Venezuela. Mais ce que je comprends, moi aussi, je ne suis pas une experte là, vraiment dans la qualité du bitume qui est produit, mais oui, c'est qu'on retrouve des propriétés qui sont similaires, puis ça pourrait être plus intéressant, effectivement, pour les États-Unis d'aller directement vers ça. Mais c'est aussi, tu sais, c'est un levier géopolitique. On sait que le Venezuela vendait comme il y avait des prêts là, au niveau de Cuba. On sait qu'il y a des partenariats au niveau de la Chine. On sait, tu sais, il y a des partenariats avec la Russie. Donc, c'est un axe qui est complètement différent de ce qu'on voit habituellement au niveau des États-Unis. Donc, c'est stratégique pour eux, comme ils ne veulent pas avoir ça dans leur cour arrière. Mais en même temps, c'est sûr qu'ils veulent avoir la ressource pour eux. Donc, pour le Canada, à ce moment-là, ouais, ça devient un challenge. Mais c'est ça, c'est pas demain matin qu'on va avoir comme tous les pétroliers qui vont se rediriger puis qui vont avoir comme la même qualité que ce qu'on produit. Donc, ça demande un ajustement. Mais encore une fois, ça commande de notre part de la lucidité.
Première visite en Chine pour Mark Carney la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu vises dans une première visite comme ça? Tu l'as dit tantôt, là, les marchés asiatiques vont devenir potentiellement super importants dans la stratégie canadienne en voulant moins être dépendant des États-Unis. Fait que première rencontre comme ça, c'est quoi le plan qui est établi? Qu'est-ce que tu veux cocher là, une fois que tu es parti de là, dire, OK, ouais, j'ai réussi à faire ça, c'est une première visite réussie.
Ça, là, Max, c'est majeur, OK? C'est un pivot dans la relation comme Canada-Chine. Je pense que M. Carney, le premier ministre, dans un premier temps, va vouloir ne pas commettre d'impair diplomatique. Mais ça fait, là, la dernière visite officielle, si je ne me trompe pas, d'un premier ministre en Chine, ça date de 2017. Ça fait presque 10 ans. La relation a été extrêmement difficile. Vous avez peut-être oublié, si je vous dis les deux Michael, ça doit vous rappeler quelque chose. Puis ensuite, il y a eu beaucoup de mesures, de contre-mesures, puis de tarifs d'un côté puis de l'autre. Tout le secteur du canola dans les prairies qui est affecté, si je ne me trompe pas, le port canadien, il y avait les décisions au niveau des réseaux de 5G, des questions au niveau des bureaux d'espionnage, le policier chinois, comme il y a vraiment, comme ça a été extrêmement tendu, extrêmement difficile. Donc, je pense que M. Carney, une bonne visite, il va essayer de. Il va essayer de recréer des ponts pour qu'on puisse avoir davantage d'échanges. Parce que, tu sais, Monsieur Chrétien, présentement l'ancien premier ministre canadien, a rencontré le vice-président chinois en début de semaine. Donc, clairement, il est en train de mettre la table. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail avec eux. Je pense que donc il faut regarder le tout encore une fois. Je pense que mon mot aujourd'hui là pour cette chronique-là, c'est la lucidité. Il y a des défis quand on interagit avec tous les régimes, avec toutes les. Mais c'est sûr que tu sais, la Chine, c'est un régime autoritaire. Puis quand ça fait pas l'affaire, ben il y a des sanctions, puis il y a des corrections. En même temps, c'est un marché immense. Mais je pense que ce qu'on devra surveiller, c'est justement toute la question de l'agriculture. On pourra surveiller la question des minéraux critiques. On pourra surveiller la question des véhicules électriques. Il va y avoir du mouvement. Le Canada avait mis des tarifs sur les véhicules électriques chinois, des tarifs de 100% alignés avec ce qui se passe aux États-Unis. Fait qu'il faudra surveiller tous ces éléments-là. Je pense pas qu'on va avoir un accord commercial dès maintenant, mais certainement, ils vont mettre la table pour venir réparer un peu du dommage qu'il y a eu.
Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, Sandra, parce que ça m'a. C'est très particulier ce qui s'est passé avec Chrystia Freeland cette semaine, l'ancienne vice-première ministre du Canada, l'ancienne ministre des Finances aussi, qui a annoncé qu'elle devenait conseillère économique auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais quand elle a annoncé ça, ben, elle restait aussi à Ottawa, puis en plus de ça, dans un rôle de. Où, avec Mark Carney, elle jouait un rôle auprès de l'Ukraine pour la reconstruction de l'Ukraine, mais en même temps, là, elle devenait conseillère du président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis elle gardait son poste, son siège à Ottawa, puis tu disais, ben, ça fait pas de sens, là. Il y a des conflits d'intérêts là-dedans, tu peux pas être dans deux gouvernements en même temps, puis travailler à ce que des entreprises canadiennes aillent investir en Ukraine. Ça a-tu été, puis là, rapidement, les oppositions ont demandé, on fait valoir ce point-là, puis on dit, ben là, il faudrait que Chrystia Freeland laisse tomber son poste à Ottawa, ce qui a été fait immédiatement, là. Ça a-tu été une erreur? Est-ce qu'elle aurait dû, Chrystia Freeland, laisser tomber Ottawa avant de faire son annonce, ou au pire, au même moment, là?
Je pense qu'elle aurait dû d'entrée de jeu le faire. Les deux auraient dû aller ensemble, comme je vais démissionner dans les prochaines semaines de mon poste et j'annonce
Parce qu'elle
que ça
pensait-tu
pas.
qu'elle pensait-tu que ça allait passer free puis
Non.
que.
Non, dans les cercles libéraux, il est bien connu que c'était une question de, j'ai envie de dire, de mois avant que Mme Freeland parte. Puis probablement, on regardait pour une élection partielle l'été prochain dans sa circonscription.
Donc, en attendant cette élection partielle-là, parce que là, on rappelle les circonstances, là, le Parti libéral du Canada est encore à un élu, un siège de tomber. Majoritaire. Là, c'est University Rosedale qui est le siège de Mme Freeland qui va tomber en élection partielle. Je regardais, puis ça devrait rester un siège libéral, mais en attendant, c'est un problème pour les libéraux ou pas tant que ça?
Je pense pas que ce soit un problème. C'est sûr que ça peut l'être si, t'sais, on sait que le projet de loi pour la mise en œuvre du budget n'a pas passé encore. Ça, c'est vraiment comme pour la mise en œuvre de différentes mesures. Donc, il y a du financement qui est attaché à ça. Il n'y a pas eu de vote encore. Donc, de perdre une voix au Parlement, c'est problématique en ce moment. Toutes les voix comptent pour le gouvernement de Mark Carney. Par contre, quand on parle de la partielle, je ne pense pas que les libéraux seront trop inquiets, mais il y aura beaucoup d'énergie qui seront mises dans cette circonscription. J'ai tombé de la misère, ça. De ce comté-là, je vais le dire avec le bon vieux mot, circonscription, comté. Il y a beaucoup d'énergie, c'est sûr, qui sera mis là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte. Puis, tu sais, dans les prochains mois, on va s'attendre à ce qu'il y ait d'autres élections partielles aussi. En Alberta, le conservateur Matt Généroux va-t-il conserver son siège? Est-ce qu'il va quitter comme il l'avait dit? Chez les libéraux, on regarde aussi, évidemment, j'ai envie de dire des ministres, des anciens ministres de l'ère Trudeau qui n'ont pas eu de poste de ministre, comme des Bill Blair à Toronto, Jonathan Wilkinson en Colombie-Britannique. C'était des ministres importants du gouvernement Trudeau. Là, ils sont devenus des backbenchers, donc des députés d'arrière-ban. Est-ce qu'ils voudront continuer ou reprendre leur vie de simples citoyens? C'est des gens qui sont considérés pour des nominations diplomatiques, mais pour l'instant, on ne l'a pas vu se matérialiser.
Est-ce que du côté des conservateurs, ça va être mollo dans les prochaines semaines en
Non.
attendant le Congrès ou il pourrait quand même y avoir des changements d'ici au Congrès qui est à la fin du mois?
C'est une bonne question. Je pense qu'on voit un Pierre Poilievre un peu plus combatif présentement sur les questions, notamment liées au coût de la vie. Il est de retour là-dessus. Il est sorti fort aussi au niveau du Venezuela, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa prise de position. Donc, je pense que lui, il va vouloir consolider son vote pour sortir le plus fort possible au sein de sa base. Il faut se rappeler que ce sont les militants, vraiment les membres du Parti conservateur du Canada qui vont aller voter à ce moment-là pour le leadership de M. Poilievre.
Es-tu en
Après
danger?
ça, sur son leadership, présentement, comme pour le vote, je ne crois pas, mais il faudra voir à quelle hauteur il recevra des appuis. Puis, il y a une question de manière plus large à savoir, comme chez les conservateurs, à savoir si M. Poilievre est la bonne personne pour mener à une victoire, parce que je dirais qu'il y a différents acteurs dans les cercles conservateurs qui ne voient pas M. Poilievre comme étant en mesure d'élargir la tente, d'aller chercher plus d'électeurs que ce qu'il a déjà été chercher, et donc à ce moment-là de donner une victoire aux conservateurs là, qui ne l'ont pas eu depuis longtemps. Cela étant dit, ils étaient prêts en matière de vote. Et si on regarde les intentions de vote présentement entre conservateurs et libéraux, ça s'est beaucoup rétréci l'écart. Par contre, M. Carney, comme leader, comme meilleur candidat pouvant être premier ministre, M. Carney continue d'être beaucoup plus élevé, alors que M. Poilievre a perdu beaucoup de plumes.
Sandra Aubé, vice-présidente affaires fédérales chez TACT, un gros merci pour ton temps. Je te souhaite une bonne année 2026. Puis d'après
Merci.
moi, ce sera pas trop long qu'on va avoir à se reparler.
D'après moi.
Salut
Allez,
Sandra.
bye. Bonne année tout le monde.
Au retour, l'ami Nathan Meilleur de Weekend vient faire sa première de l'année 2026. Puis on va parler coût de la vie. Hypothèque à renouveler, ça va coûter cher à du monde, ça, dans les prochains mois. En faites-vous partie? 88 971 1021. Vous écoutez Le Point de Max, il est 10h39.
Le Point de Max.